Radio Foot International,
Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, Radio Foot International, c'est reparti pour une toute nouvelle semaine de plaisir. Enfin, ça dépend pour qui. Allez demander à Kylian Mbappé, car son premier match avec le Real Madrid au Santiago Bernabéu, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu, un match moyen. Pas de but pour le Kix, mais une victoire 3-0 tout de même des Merengues. Doit-on s'inquiéter pour l'attaquant français? C'est la grande question du jour et on a hâte déjà d'entendre vos avis, messieurs Chérif Guémour, Naïm Moniol. Messieurs, comment ça va?
Ça va, monsieur? Comment tu vas? Bonjour à tous.
Bah, moi, ça va super bien. On verra si Mbappé ira bien après vos avis. Il n'y a pas que...
Le problème ne viendra pas de nous, je pense.
On verra plus tard. On annoncera la troisième personne présente ici dans quelques secondes. Il n'y a pas que Kylian Mbappé dans la vie. Un peu plus au nord de l'Europe, la première ligue anglaise est toujours aussi spectaculaire. Liverpool qui enchaîne avec son nouvel entraîneur Arne Slot est-il déjà définitivement adopté par les supporters des Reds, d'autant que les grosses cylindrées anglaises eh bien, sont déjà au point. Arsenal et Manchester City se sont également imposés. On fera le point, notamment avec vous. On vous annonçait Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour Sofiane.
Des choses à dire sur Kylian, des choses à dire sur la Première Ligue.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la Première Ligue. Et j'en profite un tout petit mot pour passer le bonjour à Lassina Koné. Il nous suit assidûment depuis la Côte d'Ivoire, voilà. C'est l'auditeur assidu de l'émission.
Eh bien, on le salue dans ce menu très, très constant, compatible ce lundi. Avant de se quitter, chers auditeurs, on prendra la direction du continent et plus précisément de la République démocratique du Congo pour analyser la liste des 25 léopards sélectionnés pour disputer les deux premières journées des éliminatoires pour la prochaine CAN du lourd. Pour un lundi, on a tous hâte. Radio Foot International, c'est parti.
C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, bah c'est...
Kylian Mbappé!
Ok, j'attends la chute de la blague.
Non, y a pas de chute. C'est pas une blague.
C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remets-vous!
Ce n'est pas le Mbappé que l'on imaginait. Voilà ce qu'on peut lire en une de la presse sportive espagnole depuis hier soir et cette victoire 3-0 du Real Madrid contre les promus de Valladolid. Paradoxal, me diriez-vous? Eh bien, pas tout à fait. Kylian Mbappé n'a pas remarqué. Surtout, il a beaucoup raté trois énormes occasions non concrétisées par le capitaine de l'équipe de France. Avant d'entendre l'avis de nos consultants, comme chaque lundi, on va donner la parole à nos auditeurs. On vous a posé une question simple sur WhatsApp. Qu'avez-vous pensé de la première de Mbappé au Santiago Bernabéu? Voici ce que vous avez répondu.
C'est Kisman Sida Bamogo, Burkinabé vivant aux États-Unis. Le cas de Kylian Mbappé, je suis peiné. Ce que les gens doivent comprendre, même les grands souvent aussi ont besoin de temps pour s'acclimater. Il vient d'arriver dans un nouveau club. Il a besoin de temps pour comprendre les choses. Espérons que les jours suivants seront meilleurs pour lui.
C'est Monsieur Zenon Nzimbu de Kinshasa en République démocratique du Congo. La prestation de Kylian Mbappé hier au Santiago Bernabéu était très bien. Nous devons être patients envers lui parce que c'est un nouveau championnat, un nouveau pays qu'il découvre, des nouveaux coéquipiers. Il ne peut pas venir directement et briller. Il marquera beaucoup de buts comme l'a dit l'entraîneur. Son moment viendra.
La performance de Kylian Mbappé en Ligue 1, ça m'a un peu dérangé, ça m'a un peu déçu, mais je pense qu'au fil du temps, il va s'intégrer. C'est juste une question de temps. Bonne émission à tous, je vous salue depuis le Cameroun.
C'est Steph Tango depuis Yaoundé. C'est toujours difficile pour un joueur d'évoluer à un poste qui n'est pas son poste de prédilection, mais c'est un grand joueur, c'est un athlète de haut niveau. Il saura s'adapter pour être à la hauteur des défis qui l'attendent.
Voilà, c'est mi-fig, mi-raisin du côté de nos auditeurs. La moitié qui dit globalement que le match de Mbappé était plutôt cohérent, l'autre moitié un peu déçu. Question toute simple, messieurs, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, mais qu'est-ce qui se passe là pour Kylian Mbappé? C'est simplement un problème d'adaptation, il vient d'arriver hein, tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'on n'est qu'à son deuxième match de championnat ou c'est un problème plus profond? Naïm, je vois que vous voulez démarrer.
Non. D'abord, moi, les histoires de il est adapté, il n'est pas adapté, il a réussi, il n'a pas réussi, alors qu'on n'a même pas terminé le mois d'août. que ce soit pour Mbappé ou pour n'importe qui, je trouve que c'est ridicule. Il faut essayer d'avoir un peu
d'intelligence. Sera toujours plus dur avec un joueur comme Kylian Mbappé.
Voilà, je pense que Mbappé, pour la première fois depuis son passage à Monaco, il découvre une équipe qui ne joue pas pour lui. Ce qui était le cas à Paris à 100%. Hein. Donc il y a des joueurs dont il n'est pas le circuit préférentiel. Il joue à un poste numéro 9 qu'on l'a vu essayer en équipe de France, qu'on l'a vu au PSG, sauf qu'au PSG, il avait la liberté, même en équipe de France, de se balader côté gauche, d'aller sur le front de l'attaque, alors que là, il est dans une équipe où il y a un vrai ailier gauche performant de très très haut niveau, Vinicius, où il doit tenir la pointe, il doit s'adapter à un nouveau jeu, à des joueurs, même qui, s'il lui donne le ballon, il n'est pas le circuit préférentiel, il doit réapprendre tout ça, l'adaptation dans un club de très très haut niveau, ce qu'il n'a jamais connu, puisque sans dévaloriser ni Monaco ni Paris, le Real Madrid est un club évidemment bien supérieur. Donc il va découvrir l'adaptation au très haut niveau à des joueurs qui ne jouent pas pour lui. Il va devoir tenir un poste, il va devoir tenir un profil de jeu, avoir un rôle dans une animation où ce n'est pas son fort parce qu'il n'est pas un vrai numéro 9. Son match n'est pas bon, il est moyen, il n'est pas terrible. Il y a eu des appels dans le vent, il a fait des ratés parce que c'est Mbappé.
On en parlera de
ratés. Il a du déchet. Maintenant, le temps c'est tout de suite en disant « Ah ouais, il n'a pas marqué ». On s'attendait à mieux. C'est ça Mbappé, vu son salaire, vu ceci, vu cela. En fait, mais arrêtez, on n'a même pas terminé le mois d'août. En plus, c'est pas de bol. Le petit Hendry qui rentre, il marque au bout de 4 minutes. Donc, ah, vous avez vu le petit tout de suite, il marque, il a intégré.
C'est
un super but.
Donc, un super but de numéro 9.
Faut arrêter de. Je pense qu'on perd une partie de nos fonctions cérébrales quand on part de Mbappé. Donc, on n'arrive plus à avoir de recul.
Il y a un bashing.
On n'arrive pas. C'est pas qu'il y a un bashing. Mbappé, il mérite.
Il y a un bashing.
Mbappé, il est responsable de ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand il sort ses conneries de dire. C'est un match pour les grands joueurs, donc je vais briller. T'es pas content, triplé. Moi, tu me parles pas d'âge. Bah, effectivement, après, quand t'arrives sur le terrain, on attend que tu sois au très haut niveau. Et force est de constater qu'à l'Euro en équipe de France, par exemple, il l'a pas été. Même sur la dernière Ligue des Champions, quand on avait besoin de lui. Mais la vérité, c'est que c'est un attaquant qui a terminé la saison dernière sans préparation avec 43 buts, que c'est colossal.
Il était mis au placard au PSG avant le début de la saison, on le rappelle.
Qu'il arrive dans une équipe où il doit apprendre un championnat, une nouvelle animation, un nouveau jeu, où il y a pour la première fois depuis longtemps un joueur de très haut niveau efficace à côté de lui. Il faut qu'il s'adapte à ça. Je ne suis pas inquiet. Hein. Laissez-le commencer à marquer des buts. C'est Mbappé, c'est les joueurs ketchup. Hein. Quand ça marque, quand ça commence à marquer, derrière, ça enchaîne.
La théorie de Cristiano Ronaldo. Messieurs, je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est quand même la tête de gondole du projet du Real. Kylian Mbappé, ça fait des années qu'on le souhaite du côté de Madrid, du côté du Santiago Bernabéu. On entend ce que dit Naïm, mais on peut comprendre aussi les supporters qui attendent beaucoup d'un joueur qui est censé les porter, Bruno.
Bien sûr, c'est évident. On ne peut pas placer Mbappé parmi les ballons d'or possibles chaque saison, de la même manière qu'on met Haaland, qu'on mettait Ronaldo et Messi avant, et ne pas être exigeant avec lui. Après, il faut reconnaître aussi qu'il vient d'arriver, il est dans 3 matchs avec une préparation qui a été tronquée. Moi, je pense qu'Ancelotti a fait une erreur de le faire jouer la Super Coupe d'Europe parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Et puis aussi, il arrive dans un système où, quand on avait eu le Real Madrid jouer la saison passée avec cette attaque à 2 pointes, où Vinicius et Rodrigo permutaient beaucoup, bougeaient beaucoup. On s'est dit, ah, Mbappé, dans ce système-là, il va être bien. Parce que même s'il est un peu dans l'axe, il va pouvoir permuter avec Vinicius, revenir un peu de temps en temps sur son côté gauche, retrouver sa zone de prédilection. Le problème, c'est que le Real a perdu Toni Kroos. Ils viennent de perdre sur blessure Bellingham pour un mois. Et ça change un peu les plans d'Ancelotti. Donc forcément, ça complique un peu la tâche d'Mbappé.
Donc il y a un peu de problème tactique. Avant de vous donner la parole, Chérif, on va écouter le principal intéressé, Kylian Mbappé, qui a donné son avis sur son match et sur cette victoire du Real 3-0 pour la deuxième journée de Liga.
C'était un grand moment. J'étais heureux de débuter au Stade Bernabéu, d'autant plus qu'on a gagné et pris les 3 points. La soirée a vraiment été réussie. Les supporters étaient au top. Merci à tous pour ce grand moment, pour ce soutien, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Notre objectif, c'était de remporter ce premier match et c'est ce qu'on a fait. On est très contents. On va essayer de faire encore mieux la prochaine fois. C'est super, vraiment super. C'était un rêve de jouer dans ce stade. Maintenant, on a un match contre Las Palmas jeudi. J'espère aussi qu'on viendra avec les 3 points.
Chérif, tout va bien hein, quand lorsqu'on entend Kylian Mbappé. Évidemment, c'est un joueur d'équipe, il va retenir la victoire du Real. Mais quand on regarde le match, il y a 3 énormes occasions. Il y a même un face-à-face très très mal joué. Il a tenté un extérieur du pied qui est parti très loin du but. Alors qu'est-ce qu'on retient? On retient le fait qu'il s'est créé des occasions, donc il s'approche du but, ou alors on retient le manque criant de finition là?
Non, mais c'est une bonne réflexion. Il va falloir que Kylian Mbappé, pour le moment, il va falloir qu'il devienne argentin. C'est-à-dire argentin, c'est être bon face au but. Il n'a jamais été parfait face au but. Il a marqué plein de buts. Oui, ok, c'est un grand. Ok, d'accord. Là, il faut être parfait, c'est-à-dire une action, un but à l'Argentine. C'est-à-dire être froid, clinique, chirurgical. C'est ça qu'on lui demande pour l'instant. Il est neuf pour l'instant. La deuxième chose, quand je parle de profil argentin, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il aime toucher le ballon. Là, en 9, il ne le touchera pas beaucoup. Alors, il a le droit de faire des décrochages, on l'a vu, aller un peu à droite.
Il en fait beaucoup, hein, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Et en plus...
Ce qui n'est pas une bonne nouvelle.
Je finis. Ouais. En plus, il a pu le faire parce qu'il n'y avait pas Jude Bellingham. Et ça, c'est juste une parenthèse. Ça tombe vraiment mal que Jude Bellingham, au moment où Mbappé arrive, soit absent pendant un mois. Ça aurait été mieux pour son adaptation que Jude Bellingham soit là et que, en fait, tous les deux définissent leur zone d'action. Mais là, dans un premier temps, il faut qu'il apprenne à être un neuf. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Il marquera pas. Je suis comme Naïm, je ne suis pas trop inquiet. Mais il y a des étapes. La première étape, c'est ça. C'est se tenir un rôle tactique précis.
Il y a quand même le moment où, effectivement, quand il est remplacé, il y a forcément un peu de déception. C'est logique. Dans le stade, il y a les applaudissements, mais on voit bien que c'est un peu de façade. Et malheureusement pour lui, effectivement, quand Hendrick y rentre et il marque 9 minutes après ce but... qui est aussi un pur but d'avant-centre, où c'est très limpide, très clair. Il a vraiment un geste d'avant-centre, le crochet, la frappe qui fuse. On se dit, oui, lui, c'est un avant-centre. Et Mbappé, c'en est pas un. Et pour moi, c'est pas que le problème d'Mbappé, parce qu'on peut pas non plus tout reporter sur Mbappé. C'est aussi le problème de l'entraîneur. À un moment donné, l'entraîneur, il doit faire jouer ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions.
C'est la question. Est-ce que c'est
donc
son
il
poste...
doit trouver la bonne formule.
Mais est-ce que c'est son poste d'être numéro 9?
C'est là. Mais non,
c'est que non.
Évidemment non.
Alors quel serait le poste idéal de Mbappé, sachant qu'à gauche, le poste
idéal. Mais le poste idéal. Le poste idéal, Sofiane, tout le monde le connaît.
C'est celui de Mbappé.
C'est celui de Vinicius. Et on savait,
d'où le dilemme.
Et on savait depuis 2 ans, que, puisque le transfert de Mbappé, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'il va aller au Real, on savait que ça allait télescoper avec Vinicius. L'attaque à deux, j'y crois pas, parce qu'une attaque à deux, il faut avoir quand même un joueur qui prend la profondeur et un qui tourne autour. Entre Vinicius et Mbappé, on a quand même deux joueurs qui sont très forts pour prendre la profondeur.
Et Rodrigo et Vinicius l'ont fait les dernières.
Oui, mais Rodrigo est quand même moins rapide que Mbappé. Il a plus de qualité technique pour faire le jeu. Là où Mbappé n'en a pas. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle de le voir décrocher.
C'est deux joueurs qui se baladaient, qui étaient très libres.
Et moi, je pense qu'il restera en 4-3-3 Ancelotti, parce que là, il a quand même 4 attaquants maintenant. Sachant qu'en plus, Brahim Diaz peut jouer un cran plus haut. Il va rester sur le 4-3-3. Mbappé, il ne faut pas réinventer un truc. C'est... Je prends la profondeur, je suis rapide, je prends la profondeur. Les joueurs du Real ont un attaquant qui court très vite, ils l'ont eu avec Vinicius, qui s'adapte à ça. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'Ancelotti fasse une attaque à deux. On est en train de me dire que Florentino Pérez et Ancelotti n'ont pas préparé tactiquement l'arrivée de Real Madrid avec Vinicius. Ça serait quand même bizarre.
Donc, il sera numéro 9 au Real Madrid.
Il sera numéro 9. Simplement, qu'on le laisse s'adapter, qu'on le laisse apprendre à jouer avec les autres, qu'on le laisse se régler avec Vinicius, qu'on ne lui demande pas tout de suite de mettre des buts, parce qu'effectivement, Hendrick marque, d'accord, mais Hendrick, c'est un vrai neuf, c'est pas un ailier. Donc là, il est déjà dans une position, dans un confort, dans des automatismes de jeu qu'il maîtrise beaucoup plus, même si le championnat brésilien est un championnat
cacahuète. Mais tu vois qu'Hendrick, c'est une action, un but. Ouais. Et c'est ça qu'on demande à Mbappé.
Oui, mais de la même manière qu'on peut pas condamner Mbappé en disant qu'il n'a pas marqué à son premier match, c'est pas intégré, on peut pas dire Hendrick a marqué au bout de 9 minutes, c'est bon, c'est le numéro 9 qu'il faut. Parce que si ça se trouve, dans 2 mois et demi, on est tous autour de la table, on fait la même émission, et on dit Mbappé a 15 buts, l'autre il en a mis 2, terminé. Donc il faut juste lui laisser du temps.
On analyse simplement les 3 premiers matchs. Ce que vous me dites est intéressant. On a l'impression qu'il n'a pas le profil pour être avant-centre et vous me dites qu'il n'a pas le choix que de jouer avant-centre.
Je me qu'il a marqué la Super Coupe. Hein.
Oui, il a déjà marqué un but en 3 matchs.
Après, il peut le devenir. Parce que
c'est mettre des carrés dans des ronds.
Thierry Henry, quand il arrive de la Juventus, après être passé à Monaco, la Juve, il arrive à Arsenal. C'est un joueur de côté gauche. Wenger en fait un avant-centre. À cette époque-là, il n'y a pas grand monde qui dit « Henry va être un très bon avant-centre ». Et il l'est devenu. Donc les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Je ne suis pas sûr que Mbappé ait ces qualités-là pour le moment. Mais moi, je persiste, je suis désolé, hein, mais Ancelotti, c'est à lui de trouver la bonne formule. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait changé sa formule d'une saison à l'autre, exactement, alors que la formule de la saison passée correspondait, aurait pu permettre d'intégrer Mbappé plus facilement. Quitte à changer après, au fur et à mesure du temps, de jouer à 3 une fois qu'il est bien adapté. Mais dans les premiers mois, les premières semaines, de mettre cette attaque à...
C'est intéressant
ce que tu dis, c'est intéressant. Alors c'est à la fois d'un point de vue tactique et politique. Au bout d'un moment, parce que bon, là, je pense qu'on... On voit quand même que sur les premiers matchs, il fait un peu une revue d'effectifs. Et peut-être qu'il va trancher, qu'il va rester en 4-3-3, je le pense aussi. Ou alors, comment que ça s'appelle, changer de système. Mettre un des 3, voire des 4 sur la touche, au bout d'un moment, pour une meilleure efficacité, entre Rodrigo, Mbappé Et Vinicius, peut-être qu'il va commencer des matchs sans l'un des trois.
Ben, là, c'est même une
là pour l'instant, c'est pas possible.
Il va pas jouer avec quatre attaquants. Il va pas jouer avec quatre attaquants, Ancelotti.
Non, mais
quand
c'est
on
ce
dit,
que je
change
dis.
De... Quand on dit, il change de formule, Bellingham va revenir.
Ben, quand en 4-3-3, il joue avec Bellingham en 8.
Quand on dit, il change de système d'une saison à l'autre, en fait, il revient au système qui était le système du Real quand Benzema jouait. Benzema dans l'axe, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. L'année dernière, il a joué à deux pointes. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que l'année dernière, tu avais deux pointes parce que tu avais plus le numéro 9. Mais là, maintenant qu'il a récupéré Mbappé, il va le faire jouer comme Luis Enrique l'a fait jouer sur la dernière saison, comme Deschamps l'utilise également en neuf, parce que mine de rien, on dit Ancelotti l'utilise en neuf, mais il y a deux autres entraîneurs qui l'ont utilisé en neuf, Luis Enrique et Deschamps, il met des buts. C'est pas son poste préférentiel, mais il met des buts. Donc il revient, Ancelotti, à un système qui était celui du Real il y a deux ans, en partant du principe que Mbappé est un joueur intelligent, qui va se fondre dans le moule, qui va réapprendre, pas réapprendre un poste, mais en tout cas qui va avoir des automatismes de neuf, et que ça va marcher. Mais ne le condamnons pas.
C'est intéressant, vous dites qu'il y a quatre joueurs offensifs avec une possibilité qu'un des quatre puisse aller sur le banc, je pose la question.
Sur le papier, Kylian Mbappé. Sur le papier, Hendrick ne va pas être titulaire tout de suite.
Non, pas
Hendrick. Entre Bellingham, Rodrigo, Mbappé et Vinicius. Bah, il fait partie des joueurs offensifs,
mais
même s'il a reculé
Bellingham
un
est
petit
dans
peu.
Le cœur du jeu. Bellingham, il est dans le cœur du jeu, c'est un 8, il jouera peut-être derrière. S'il y a un 4-3-3 avec une pointe haute...
Il va se projeter, Bellingham.
Il peut se projeter, mais être dans le cœur du jeu, c'est pas interdit,
oui,
Sofiane.
Non, mais il joue en 10, il joue en 10 au Real.
Moi, je le compte quand même dans le...
Moi, dans les 4,
on est sur un 4-2-3-1.
Il était plus proche des attaquants que des milieux défensifs. Attends, après, il y a l'équilibre, comme tu l'as dit, Kroos est parti.
Quand t'as un milieu à 3 avec Kamavinga, Tchouaméni et Bellingham, ça me paraît normal que ce soit Bellingham soit le plus offensif des trois. Maintenant, la vérité, c'est que Bellingham, c'est un joueur qui sera dans le cœur du jeu, et que dans les quatre...
T'oublies Valverde, là.
Oui, c'est Valverde à la place de Kamavinga qui est titulaire en ce moment.
Valverde, pourquoi tu peux pas jouer avec Valverde et Bellingham au milieu?
Ah si, l'on fait
il en faut un troisième.
Si, si.
Et bah, avec Tchouaméni, avec Kamavinga, avec Tchouaméni, c'est pas la question.
Et je suis
mais
pas
Bellingham,
sûr que Bellingham,
moi je ne compte pas dans moi quand je dis les quatre de devant, c'est Rodrigo, Hendrick, Mbappé. Moi pour moi, Hendrick pour le moment, c'est sur le côté.
Bien sûr, mais ça
il y aura attaque à 3 Vinicius, Mbappé, Hendrick.
Bien sûr.
Pourquoi tu le vois titulaire toi?
Ah non.
Bah alors.
Non, mais c'est parce qu'en fait Mbappé, Vinicius,
Rodrigo.
Mais parlons des
4
stars. Parlons des 4 stars, c'est plus simple. Parlons des 4 stars du Real, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé.
Les 4 sont titulaires.
Est-ce qu'il y a une chance avec ce qu'on a vu, avec Hendrick qui a marqué en quelques secondes, avec un Brahim Diaz qui fait aussi des bonnes entrées, il y a Arda Güler aussi, le Turc, on n'en parle pas, qui a fait un match correct. Est-ce qu'il y a une chance dans les prochaines semaines que Kylian Mbappé démarre un match sur le banc?
Non, pas là. C'est la grande recrue de l'été qu'ils ont attendu pendant 4 ans, 5
donc
ans.
Donc si c'est pas lui qui sort, ça sera Rodrigo.
Malgré des performances parfois moyennes,
y a quand même un point sur lequel insiste Ancelotti quasiment à chaque conférence de presse, c'est qu'il nous parle à chaque fois des 70 matchs qui nous attendent, parce qu'il inclut la Coupe du Monde des clubs. Donc en disant ça, en travaillant un peu la presse espagnole en disant ça régulièrement, c'est une manière de dire, bon, je vais t'amener à tourner peut-être d'un match à l'autre, et peut-être que par moment, l'un sera remplaçant, l'autre, etc.
Moi, je le pense.
Ça arrivera. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver aussi.
Mais pour l'instant, non. C'est pas... On lui laisse le temps de...
Ça serait suicidaire de faire ça, de mettre Mbappé sur le banc alors qu'il vient d'arriver.
Pas Mbappé tout de suite sur le banc, mais de toute façon, il y aura une rotation.
Mais ça peut arriver, en tout cas, cher.
Mais
au Real Madrid, en cas de mauvaise performance, il pourrait
faire souffler un joueur pour qu'il se repose parce qu'il a fait 20 matchs en un mois. Et
moi, je parle bien en termes de performance.
Je parle de mauvaise performance.
Est-ce que
pour vous, il ne sort pas malgré la mauvaise performance?
Dans deux mois, on est dans un cycle infernal de matchs. Il commence à être moins bon. Ancelotti ne tente pas un coaching. Il le laisse sur le terrain. Toi, tu parles de fatigue
pour éventuellement évacuer. Moi, je dis aussi que pour des choix tactiques, si derrière, ça n'assure plus... Parce que Kroos est parti. C'est vrai que pour moi, c'est une énorme perte.
C'est une grosse perte.
Non, mais il faut vraiment s'en rendre compte. Modric, il va pas toujours assurer les 20 dernières minutes avec une passe géniale et tout. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et si ça pêche derrière, moi, j'ai remarqué qu'hier, à la perte de la balle, les trois attaquants, ils revenaient pas souvent.
Raison de plus pour pas sortir Bellingham, alors. Raison de plus pour pas sortir Bellingham, s'il faut trouver un équilibre.
On en revient à ce que je disais. C'est pas une bonne chose que Bellingham se soit blessé là, maintenant.
Il est blessé, évidemment.
Bon, messieurs, le Real qui a gagné.
Gros chantier tactique, en fait.
Pour l'instant, on va rester sur le côté arithmétique. 4 points en 2 journées. Pour l'instant, ça va plutôt bien pour le Real Madrid. 4e de cette Liga. Bon, avec 2 journées, je sais pas si c'est encore très intéressant d'analyser le classement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont juste derrière les deux gros cadors du foot espagnol, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Il nous reste 2 minutes sur ce débat-là pour en parler rapidement. Je voulais vous parler d'Antoine Griezmann, un petit peu, qui a marqué avec les Colchoneros. On se rappelle de de son euro. Elle est compliquée. Compliqué.
Raté.
Je restais sur compliqué.
Complètement raté.
Ça va lui faire du bien.
Carrière internationale.
Tout de suite. Ça lui fait du bien ce but.
Forcément. Et puis de retrouver son environnement où il sent bien l'Atlético. Il va avoir un nouveau partenaire avec Juan Alvarez. Et je suis curieux de savoir ce que va donner leur association. Parce que c'est deux joueurs qui sont capables de décrocher. Julio Alvarez est capable de jouer en 10 comme il le faisait à City. Après, l'Atlético, ils ont une grosse pression parce qu'ils ont vraiment investi beaucoup cet été. Et là, l'objectif, clairement, c'est d'aller chercher le titre, de titiller le Real Madrid.
Ils peuvent.
Ouais.
Pas oublier que Griezmann, son euro raté, c'est une parenthèse. Hein. Sa saison dernière est bonne, voire très bonne sur certaines séquences. Mmh. Sur le début de saison, c'est 2 passes décisives, 1 but. J'ai l'impression, en tout cas, à voir comme ça sur le terrain, quand sa relation avec les autres, même quand il marque des buts, quand il fait des passes, j'ai l'impression qu'il a l'air heureux. C'est complètement raté son euro, mais comme à peu près tous les joueurs de l'équipe de France globalement, en tout cas sur le secteur offensif. Mm-hmm. Mais il reprend comme il a terminé, et c'est pas un problème, quoi.
Chéri, vous voulez ajouter une dernière chose sur l'Atlético Madrid ?
Non, c'est juste le doute que j'ai sur Griezmann de pouvoir enchaîner les saisons régulières et les grosses compétitions après.
Il le fera de moins en moins vu son âge, forcément.
C'est
forcément,
tout.
Mais bon.
C'est après, tout. C'est une interrogation.
Il se connaît aussi très bien.
Je pense que Atlético, Simeone, quand il sent même un joueur à qui il a partagé beaucoup de choses, on en a vu par le passé avec des Coquet, les Niguez et compagnie. Quand il y a des mecs qui n'assurent plus l'essor, hein, il ne fait pas trop sentiment.
C'est vrai qu'il
continue de jouer, c'est que.
Il n'est pas là dedans.
Saúl Ñíguez est parti.
Très rapidement sur le Barça. Ils ont gagné 2-1 contre Bilbao ce week-end. Ils avaient gagné 2-1 le premier match, 2-1. Hansi Flick, qui est le nouvel entraîneur du Barça, a surveillé aussi ce Barça pragmatique. Hein, c'est une équipe sympathique,
qui fait du jeu.
Une équipe sympathique, moi voilà.
Des gentils garçons. Ils font du jeu, ils ont des occasions, ils marquent des buts.
Ils en prennent.
C'est pas génial, mais pour l'instant,
il y a un joueur qui va changer la saison, c'est Dani Olmo. Quand Dani Olmo va être intégré à l'effectif,
parce que pour l'instant, il n'est pas encore inscrit.
Il n'est encore pas inscrit. C'est compliqué.
Et il piaffe.
Et c'est un super joueur. Ouais, et il est capable de changer un peu le visage de cette équipe aussi.
Dans le cœur du jeu. Vous attendez quelque chose de ce Barça ?
À titre personnel, non. Mais non, j'ai plus de doutes.
C'est clair.
J'ai plus de doutes sur la défense.
Oui.
La défense.
Ah oui. Deux buts en deux matchs.
Depuis, ça fait 6 mois, 8 mois maintenant qu'on nous dit, te rends pas compte, il y a Cubarsí derrière. Cubarsí, c'est un gamin. Il a 18 piges.
C'est ça.
Il a pas de saison complète derrière lui. Si c'est lui le taulier de la défense d'un club comme le Barça.
Christensen irrégulier.
Baldé à gauche.
Match du Français Jules Christensen.
Oui, qui est dans le prolongement de son euro, c'est très bien. Mais derrière, je pense qu'à un moment donné, ça manque quand même d'un vrai poids lourd. Derrière.
On en reparlera. On parlait de Kylian Mbappé qui était muet face au but. On va parler d'un attaquant qui, lui, en a marqué 3 des buts ce week-end. On va tout de suite du côté de l'Angleterre. And Diogo Jota is a man on a mission. It's a lovely ball threaded for Luis Diaz. Now Diaz goes for goal and finds it quite wonderfully well. What a counter-attack by Liverpool. Leicester stabs it forward. Lovely ball. Here goes Salah for Liverpool. There goes Mohamed Salah for Liverpool. There is the second goal. And who else could it be but Mohamed Salah? Et on évoquera Erling Haaland en feu avec City dans quelques instants. D'abord, les Reds de Liverpool qui ont remporté, comme City, leur deuxième match en championnat. Une victoire 2-0 du côté d'Anfield. Des buts de Luis Diaz et de l'inévitable Mohamed Salah, si vous l'aviez oublié. 6 points en 6 matchs. La greffe Arne Slot semble plutôt bien prendre du côté de Liverpool. On va écouter Arne Slot d'ailleurs, très très content de son accueil dans le stade d'Anfield.
L'accueil des supporters à Anfield a été similaire à celui que j'ai reçu de la part de toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur et autour du centre d'entraînement, ainsi que des personnes qui travaillent pour Liverpool. Je ne peux pas parler au nom de tous les entraîneurs, mais peut-être qu'ils vous diraient tous la même chose. Chaque entraîneur qui arrive ici ressent la chaleur de ce club, la reconnaissance des supporters. Et la chose la plus importante que nous devons faire, c'est de nous assurer que l'équipe joue dans un style que les supporters aiment voir. C'est ce que nous essayons de faire et je pense que les garçons l'ont montré. Les supporters ont apprécié, je pense.
On parlera d'Arne Slot dans quelques secondes. Juste avant, vous donner cette information, chers auditeurs. Cela dit, on a appris le décès de l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Sven-Göran Eriksson, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer, messieurs. un mot rapidement sur ce sélectionneur. Pardon, qu'est-ce que vous retenez de lui? Il a d'énormes réussites en club. C'était un peu plus compliqué en sélection. Qu'est-ce qu'on retient d'Eriksson?
C'est pour moi le sélectionneur qui a probablement eu l'une des plus belles générations anglaises avec lui et qui n'a pas gagné. Après, il a un palmarès en club, hein, et puis c'est un entraîneur qui a gagné, il n'y a rien à dire là-dessus, puis il paie à son âme maintenant, mais je garde l'image d'un monsieur qui avait quand même un jouet extraordinaire entre les mains avec l'équipe anglaise et qui s'est raté.
Non, mais c'est un personnage qui était un peu controversé en Angleterre, parce que d'ailleurs la presse anglaise a fait un peu un monde honorable, ils l'ont énormément critiqué quand il était la tête de l'Angleterre, et puis il y a eu ce moment où il avait avoué qu'il avait son cancer du pancréas, qu'il avait un dernier rêve, c'était de diriger Liverpool à Anfield. Et le club de Liverpool a répondu aussitôt. Ils ont organisé un match le 23 mars. Et c'était un moment absolument magnifique, plein d'émotions. Mm-hmm. Et malheureusement, 5 mois après, il est parti. Donc, comme quoi, ça part très, très vite. Donc, voilà, son image en Angleterre, c'est un peu adouci, on va dire, avec malheureusement sa maladie. Mais voilà, c'est terrible, évidemment.
Shérif.
Grand entraîneur de club, c'est-à-dire qu'il a gagné 2 titres majeurs avec la Lazio au moment où la Serie A dominait le monde du football. Ils étaient encore devant la Première Ligue, fin des années 90, début des années 2000. Donc il y a ça, donc il a fait ses preuves. C'est un grand entraîneur de club. Après, il avait gagné une Coupe d'Europe aussi avec Malmö. Et malheureusement, il y a l'expérience anglaise de la sélection. Je suis d'accord avec Naïm. Il a eu peut-être le meilleur milieu dont l'équipe Angleterre a possédé. Et une petite anecdote, je ne sais plus qui racontait ça, c'était à la mi-temps du match, il me semble, contre le Brésil en Coupe du Monde. Et rien n'était encore joué. Et puis à la mi-temps, il y a Sven Göran Eriksson qui est entouré des joueurs anglais et tout, super compétitif, Chelsea, Liverpool, Manchester United. Et il leur fait un peu de tableau noir, entre guillemets. Hein, il leur fait un peu de tableau noir. Il y a certains joueurs qui ont été déçus, ils ont dit nous, on est des Anglais, fallait nous rebooster, fallait nous dire yes, we will fight, we will win. Ils attendaient ça, quoi. Et il y a eu ce qu'on appelle en anglais the misfit, c'est-à-dire le truc qui colle pas vraiment. Oui. C'est juste une anecdote, parce qu'en effet, il a fait quand même 3 compétitions, 2 euros, une Coupe du Monde, avec une équipe d'Angleterre qui, sur le papier, était surtout au milieu.
Il n'y a pas que lui qui a échoué. Hein. Capello a eu la même équipe. Il a échoué à son tour aussi. Donc,
alors, voilà, on parle de lui parce qu'évidemment, c'était le premier sélectionneur non-anglais de l'histoire de l'équipe des Three Lions.
On rappelle que Sven-Göran Eriksson s'est éteint à l'âge de 76 ans. On va revenir du côté du terrain. On avait fait la transition. On parlait de Liverpool. On y retourne à Liverpool, à Arne Slot, 2 victoires en 2 matchs. Bruno, je vais me tourner vers vous d'abord. Vous comprendrez pourquoi. C'est des débuts de rêve pour Arne Slot qui utilise très bien l'héritage finalement de Jürgen Klopp. On peut déjà juger son apport ou c'est quand même un peu trop tôt là?
C'est un peu trop tôt. Il n'y a pas de révolution. On est un peu dans la transition de ce qu'était parfois Klopp, hein, qui n'était plus vraiment du football heavy metal, comme on disait, un peu rock. Ça se calme aussi par moments. Donc c'est une transition un peu douce. Moi surtout, si j'arrive dans un club, j'aimerais bien que mon prédécesseur soit Jürgen Klopp. Parce que franchement, il a préparé le terrain comme aucun entraîneur ne l'a fait. Sur son dernier match à Anfield, il avait chanté le nom de Arne Slot. Et il voulait que tous les supporters soient derrière lui, qu'on l'accueille comme si c'était déjà Jürgen Klopp. Ouais. Et puis voilà. Et puis il a hérité d'un effectif qui est quand même extrêmement riche, notamment offensivement. Donc il manque pas grand-chose. D'ailleurs, pour l'instant, Liverpool n'a toujours pas recruté.
C'est une question que j'allais poser.
L'héritage
de Klopp à 100%.
Messieurs, le fait qu'il n'y ait pas de recrues. Alors on parle d'un club comme Liverpool qui joue le titre en Première Ligue chaque saison. Le fait qu'il n'y ait pas de recrues, Naïm, problématique ou non? Arne Slot peut s'appuyer sur l'effectif qu'il a déjà.
Problématique. C'est quand tu pars sur 4 compétitions comme va le faire Liverpool, c'est toujours mieux d'avoir un effectif fourni parce qu'on dit il va sortir des jeunes, il y a l'académie, mais ils n'ont pas tous le niveau pour être titulaire. Donc oui, ça serait bien d'avoir 2-3 recrues, notamment une sentinelle et un défenseur sur le milieu, sur le secteur offensif. Ils sont riches, même s'il peut y avoir des blessures avec Diaz, avec Jota. Donc oui, je pense qu'il faut recruter 2 joueurs, un milieu défensif, un défenseur. Après, il arrive, il a quand même un sacré matos à disposition.
C'est clair, on va pas le
plaindre. L'équipe qui démarre, c'est des mecs qui se connaissent tous depuis 2 saisons et demie pour l'essentiel.
Oui.
Tu retrouves un bon Luis Diaz. Si Jota se blesse pas, tu as quand même un 9 de très haut niveau. Donc bon, il a quand même du matos pour bosser.
Il y a du Núñez sur le banc,
Núñez sur le banc, ça me paraît plus logique déjà, le titulaire. Après, un défenseur polyvalent et un milieu défensif.
Shérif, enthousiasmant ce Liverpool? Je sais que vous voulez parler du recrutement peut-être avant.
Non, c'est simplement que, comment dire, quand on arrive à Liverpool, le style existe déjà en fait. Donc évidemment, il y a l'héritage de Klopp, mais on n'a pas besoin de surmotiver les joueurs. Le public est là, il y a une tradition, il y a une façon de jouer. C'est une équipe qui va de l'avant, toujours, qui vous écrase, qui fait du pressing.
C'était pas le cas sous Benitez, par exemple.
Hein ?
C'était pas le cas sous Rafael Benitez.
Bah, c'est peut-être pour ça que c'est planté, je sais pas. Peut-être.
Il a gagné avec des champions, quand même.
Oui, ouais.
Oui.
Le miracle d'Istanbul. Non, je suis d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire de révolution. Donc, il n'y a pas besoin, comment ça s'appelle ? Au niveau du style, au niveau de la patte, on le verra au niveau du coaching et on verra sur le.
Quant à Salah, Diaz, Jota, Núñez, Gravenberch, Zozoblay, que tu as les latéraux que tu as.
Mais c'est ce que jouer. Je dis.
Non, mais je suis d'accord, mais ouais. Oui, mais je complète ce que tu dis, chérif. Je ne suis pas contre toi.
Et Gakpo, sur le banc.
Je ne suis pas contre toi. Ça serait ridicule de jouer bloc bas, lent. Tu as des mecs qui vont à 1000 à l'heure, tu te projettes vite vers l'agent, grosse transition. Évidemment qu'il va jouer, il est intelligent, je pense. Il va jouer dans la continuité.
Bah, Liverpool l'a pris parce qu'il jouait d'une certaine manière. Hein. Ouais. Ils ne l'ont pas pris parce qu'il allait faire bloc bas.
Mais tu vois, tu pourrais dire à un moment donné, et le mec il vient et il amène sa patte aussi. Là, il a tout ce qu'il faut pour jouer dans le même style. Là où, en revanche, je suis un peu plus mesuré, c'est qu'il y a une grosse saison. Tout à l'heure, on parlait des 70 matchs du Real. Il ne faut pas oublier que les Anglais ils ont deux coupes nationales, que tu vas peut-être vouloir briller un petit peu en Ligue des Champions. Le titre aussi, parce que finalement, tu vois, Manchester City, c'est quand même à faire longtemps qu'ils sont champions. Ouais. Hein, un peu sur les 10 dernières années, il y a 7 ou 8 titres. Ça ressemble plus ou moins au PSG en Ligue 1.
On ne lui demandera pas le titre, Naïm.
Comment ?
On ne va pas lui demander le titre à Arne Slot.
En tout cas, il y a le podium.
Si Arsenal joue le titre jusqu'à 2 journées de la fin, Liverpool peut jouer le titre jusqu'à 2 journées de la fin. Bruno,
ils ont montré qu'il était un cran en dessous quand même la saison passée. Et là, ils ne sont pas recrutés.
Ça se joue à 2 journées. Le mercato n'est pas fini. Il peut prendre un défenseur, il peut prendre un milieu défensif. S'il n'a pas de blessé, tu peux faire un truc aussi. On va pas lui demander le titre, à ce moment-là on lui demande quoi? On va pas demander la Ligue des Champions à ce moment-là. Donc on joue quoi? La Carling Cup et puis c'est tout?
Mais Naïm, tu penses qu'un entraîneur arrive et tout de suite il doit gagner? Non, à Liverpool il y a une construction.
Non,
il y a
je pense pas qu'un entraîneur arrive doit gagner. Il y a des entraîneurs qui arrivent qui gagnent.
Il n'y a pas eu de changement dans l'effectif, il y a aussi des changements dans l'état-major, puisque tout l'état-major a changé avec le retour de Michael Edwards qui chapeaute un peu tout ça. C'est une autre manière de fonctionner, on va chercher des joueurs plus jeunes, moins connus. C'est une autre méthode, Liverpool.
Je ne demande pas à un entraîneur de gagner quand il arrive s'il a l'effectif de Brighton. S'il a l'effectif de Liverpool, je suis un petit peu plus exigeant. Et en plus de ça, tu te dis, à un moment donné, il va peut-être falloir que ça s'arrête, cette histoire de Manchester City. Arsenal joue le titre jusqu'à 2-3 journées de la fin, l'année dernière. Donc Liverpool peut le faire. Mais Arsenal n'a pas un meilleur effort. Et Arsenal n'a pas un meilleur effectif que Liverpool, Bruno.
Messieurs, on va parler d'Arsenal, on va parler de ces mastodontes du football anglais. Juste avant Arsenal, parlons de Manchester City. Tiens, facile vainqueur du premier Ipswich, en tout cas avec le score 4-1. Ils ont été menés au score, d'ailleurs, nos amis Citizens. Oui, ça n'a pas duré très longtemps, mais à noter quand même que le premier a ouvert le score face...
La saison dernière, où il y a deux saisons, c'était toujours mené, puis il finissait par gagner.
Ouais, c'est finalement à la fin, le football joue à 11 et c'est City
qui
gagne et qui marque. Il y en a un qui marque beaucoup, c'est Erling Haaland qui est auteur d'un triplé, le Norvégien. On va écouter Pep Guardiola d'ailleurs qui évoque son joyau d'attaque.
Cette saison, il n'a pas participé à l'Euro, il s'est reposé, il est revenu en forme. Nous avons un peu discuté pendant la tournée aux États-Unis, je lui ai fait part de certaines choses qu'il devrait améliorer. Il a été à l'écoute, et bien sûr, il ne peut pas jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, même si les statistiques d'un joueur sont devenues importantes. Mais son total de buts marqués est déjà dingue. Il peut vraiment rivaliser avec CR7 et avec Lionel Messi. Les chiffres sont incroyables pour son jeune âge. Nous sommes très heureux d'avoir ici et espérons qu'il restera au club encore de nombreuses années. Ce serait vraiment bien pour nous.
Il en marque un début, Erling Haaland. Chaque saison, on se dit, est-ce qu'il en marquera encore plus que la saison précédente?
C'est quand même fabuleux quand on pense à Pep Guardiola, qui n'était pas à la base, qui n'est pas fan des numéros 9, il le fait venir.
Ça, c'est très contestable comme théorie, ça.
Pardon ?
C'est très contestable comme théorie, ça.
Il a
aussi recruté beaucoup de numéros 9. Hein.
Oui.
Oui, Agüero est une légende de
oui,
City.
Oui, puis Mandzukic et puis Lewandowski. Il y en a eu 3-4 des 9. Hein.
Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive à jouer avec deux systèmes, c'est-à-dire une équipe avec un buteur unique numéro 9 comme à Londres, comme ce qu'il nous a fait ce week-end, et il est capable de jouer avec une équipe à buteurs multiples. Ça peut être Foden, ça peut être De Bruyne, ça peut être... Bref, on ne va pas tous les citer. Qu'un entraîneur dispose de ces deux registres offensifs, ça prouve le niveau de Pep Guardiola.
Mais c'est le propre des grandes équipes, ça, non ? Le Bayern n'a pas ça. Le Real Madrid n'a pas ça? Le Barça n'a pas ça?
Non, parce que même sans Haaland...
Ils n'ont pas des buteurs comme Yamal sur les côtés avec Lewandowski?
Non, parce que, comment dire, si tu enlèves Haaland, l'équipe de Manchester City pourra continuer de gagner, marquer beaucoup de buts.
Bah, il a été blessé la saison dernière et City était dans une série de victoires.
C'est pas propre à toutes les équipes.
Ça, je suis assez d'accord. Erling Haaland, Naïm...
Guardiola a raison, il n'a pas fait l'Euro, en fait. C'est une des grandes stars.
Il est frais physiquement ?
Il est plus frais physiquement, déjà. Il est plus frais physiquement. Il a été blessé la saison dernière, donc il a aussi eu de la réathlétisation. Il a pu se reposer. Il n'a pas fait d'euro. Il s'est bien préparé. Ipswich n'avait pas non plus l'opposition la plus tranchante de la saison. Donc, c'est très bien pour lui de mettre un triplé. Mais ce n'est pas sur un match comme Ipswich que tu l'attends. Mais
moralité.
C'est très bien marqué.
Ça fait quand même 23 hat-tricks depuis le début de sa carrière.
Ah non, mais c'est
quand même assez énorme.
C'est extraordinaire.
Là, on est en train de banaliser l'extraordinaire.
Non.
Il y a une question en Angleterre.
Non, quand on dit 23, parce qu'on le dit 23.
Ah, 23, c'est énorme.
C'est énorme.
Et il y a même eu un débat en Angleterre. Enfin, un débat pour rigoler. Hein, on se dit, à la fin de sa carrière, on pense qu'Haaland, il aura plus de hat-tricks que certains joueurs auront marqué de but dans leur carrière. Il va finir à peut-être 60 hat-tricks au rythme où ça va. Et c'est juste, c'est hors norme en fait.
Oui, tout à l'heure, quand je parlais de Mbappé. S'il pouvait avoir l'efficacité de Haaland, c'est-à-dire une action, un but.
Là, vous créez un... C'est pas un être humain, là, vous voulez...
Haaland n'est pas sur une dynamique, une action, un but. Hein. Là, c'est non, ce week-end, non, mais ce week-end, peut-être, mais
il y a aussi... Il est clinique.
Tu sais, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est plus complet. Mbappé, c'est je prends la transition, je prends... Hop, profondeur, j'accélère, je marque. Haaland, on l'a dit plein de fois la saison dernière, il sait se placer, il sait faire des attaques placées, il est très bon avec la tête, il est très bon sur les coups de pied arrêtés, il en a très peu, il est complet. Donc on va dire que dans différentes positions, il peut être efficace, là où un Mbappé, s'il commence à reculer, à faire le jeu, à se retrouver dos au jeu, là tu sais qu'il va se paumer. C'est pas son truc. Il est plus complet que Mbappé. Ça, il n'y a aucun souci.
J'adore
là-dessus.
Qu'on est revenu aucun à Mbappé, c'est exceptionnel.
Non, mais c'est.
C'est
une obsession.
C'est la comparaison un peu facile. Mbappé-Haaland, tu sais que tu vas la prendre pendant 10 ans.
C'est
donc,
sûr. C'est le nouveau duel.
Si tu as vu Messi-Ronaldo, tu auras Mbappé-Haaland. Il est beaucoup plus complet que Mbappé. C'est une certitude.
Bon, en tout cas, Haaland, on sait qu'il va sûrement.
Dans les faits, c'est sur Haaland que le PSG aurait dû aller.
Ah! Vous voulez refaire un peu
non,
l'histoire.
Je ne vais pas refaire le débat, mais...
Et Mbappé à City.
Et Mbappé aurait dû aller à Liverpool.
Non,
à
pas
Liverpool.
Forcément aller à Liverpool, mais à partir du moment où tu sais
qu'il
perd
Mbappé... Il est au Real
Mbappé,
Madrid, à Londres et à City. Et Arsenal a battu Aston Villa 2-0.
Bruno.
Messieurs, Arsenal a battu Aston Villa 2-0. On a quelques instants pour en parler. C'était pas un match facile, Bruno.
Ils se sont fait bouger. Ils se sont fait bouger parce qu'honnêtement, à l'heure de jeu, Aston Villa doit mener au moins un but si c'est deux.
La claquette de Raya, vous voulez en parler?
Ouais, mais c'est surtout Ali Watkins, moi, pour moi, qui rate une grosse première occasion en première période. Et sur l'arrêt de Raya, qui est fantastique, Watkins, il va faire mieux. Ouais. Il doit dévier davantage sa tête sur le côté, il ne le fait pas. Et puis derrière, il y a l'apprentissage d'Arsenal. Villa, c'est la seule équipe qui a battu deux fois Arsenal la saison passée.
Il a privé du titre.
Et Arsenal et Arteta, ils apprennent d'année en année, ils progressent d'année en année, ils corrigent la moindre petite erreur. Et là, ils se sont montrés, ils ont fait le dos rond, ils ont été solides après ça. Et puis surtout, ils sont chirurgicaux, quoi, comme les City par moment. Et ça, c'est pour moi des signes d'une équipe qui apprend et qui, s'ils font meilleur que la saison passée, s'ils ont donc plus de 89 points, ils auront 90, ou la barre des 90, c'est qu'ils seront champions. 90 points en Angleterre, on est régulièrement champion. Donc s'ils arrivent à modifier ce petit truc-là, je pense qu'ils seront pas loin du titre.
Et je suis content City, du retour de Partey au milieu.
Ouais, il fait du bien. Voilà.
Tu peux avoir un Liverpool à 90 points aussi. Hein, c'est pas interdit.
Ce qui rend toujours la course au titre en première ligue,
non, mais
c'est excitant.
Là où je suis d'accord pour le coup avec Bruno, c'est que Arsenal, ce match-là, peut-être qu'il y a deux ans, ils le perdaient.
Ouais. Ouais.
Là, maintenant, ils arrivent à gagner. Gagner quand t'es pas bon, c'est une qualité rare dans le football et toutes les équipes ne les ont pas.
Ah bah c'est le propre des grandes équipes, parfois, savoir se sublimer lorsqu'on est moins bon.
Ça te montre la progression. Faut pas oublier que par rapport à City qui joue Ipswich ou Liverpool qui joue Brentford. Tu joues à Aston Villa, tu joues une des meilleures équipes d'Angleterre, même qui a fait un parcours européen la saison dernière. Donc c'était costaud pour Arsenal. Voilà, très bien, on espère que ça les lance pour la suite.
Bon, messieurs, on a terminé avec la Première Ligue. On va partir sur le continent africain pour rejoindre la sélection des Léopards. Justice, la 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 justice, 25 joueurs appelés par le sélectionneur Sébastien Desabre afin de disputer les deux premières journées des éliminatoires de la prochaine CAN, cette prochaine CAN qui se disputera au Maroc. Tous les cadres sont présents, ou presque, quelques petites nouveautés, mais on va d'abord revenir rapidement, et on n'a pas le choix, sur cette polémique qui a enflé dernièrement 6 mois de salaire impayé pour le sélectionneur des Léopards qui n'avait plus perçu d'argent depuis mars dernier. Ça représentait des loyers, des salaires et une prime de la dernière CAN, c'est environ 420 000 dollars. Messieurs, vous avez dû, j'imagine, voir cette polémique enflée sur les réseaux ces derniers jours. Votre avis sur cette situation, c'est pas la première fois que sur le continent on a ces impayés, mais là on parle quand même de 6 mois et presque un demi-million de dollars.
Ouais, c'est une quatrième place à la CAN.
Je pense, bien sûr, je pense que 6 mois sans être payé, c'est pas le record en Afrique. Rappelle-toi à l'époque Alain Giresse, je crois qu'il a eu des histoires comme ça. Il y avait eu. Non, c'est Ole Nicole également qui a eu des problèmes. Bah, j'en pense que c'est scandaleux, j'en pense que c'est honteux. Les entraîneurs qui vivent ce genre de situation sont même bien gentils, parce que moi je me barrerais, je leur mettrais une plainte.
Il n'a pas communiqué, Sébastien Le Sabre.
Il n'a pas, pas communiqué, donc voilà. Mais oui. C'est un scandale, parce qu'en plus, les RDC, il y a un peu plus de sous qu'ailleurs. En Afrique, je ne dis pas qu'il y a je ne sais pas quoi. Mais tu prends un entraîneur en plus qui n'est pas une tête d'affiche. De Sabre, c'est un bon coach, mais tu n'as pas été chercher Capello ou Sven-Goran Eriksson, par exemple. Oui. Donc tu vois. Tu peux quand même le payer un minimum, surtout qu'il te met une quatrième place à la CAN. Il se moque pas de toi, hein. Faut pas oublier que la CAN d'avant, tu y étais pas. Donc c'est une honte, les dirigeants de RDC devraient avoir honte, et malheureusement, c'est très symptomatique.
La situation est en train d'être réglée. Hein,
pour oui, mais en train d'être réglée à l'échelle du foot africain.
Elle est en train d'être réglée.
Ouais, donc je pense qu'elle n'est pas près d'être réglée.
On va rester factuel, la situation est en train d'être réglée, c'est l'information qu'on sur RFI. Shérif, rapidement, votre avis.
Non, c'est scandaleux. Et puis malheureusement, Sébastien Le Sabre ne peut pas partir non plus. Parce que déjà, ça jouerait contre lui. Puis là...
Pourquoi il ne peut pas partir ?
Hein ?
Pourquoi il ne peut pas partir ?
Parce que tu peux avoir des gens retors qui te disent que tu as commis une faute lourde.
Une faute lourde, il n'est pas payé depuis 6 mois, c'est lui qui fait la faute lourde.
Non, mais je te dis, il y a des gens retors dans les fédérations africaines. Ouais. Tu le sais aussi bien que moi.
Les gens retors sont au-dessus des lois.
Et la deuxième chose, il y a quand même un beau projet sportif aussi. Donc voilà, il y a quand même des émotions. Il y a la quatrième place à la dernière CAN. Ils font un super parcours.
C'est une sélection qui revient sur le devant de la scène.
Absolument.
Bruno, c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'à la fois, on a une sélection qui veut s'imposer parmi les grandes sélections comme le Sénégal, le Maroc ou l'Égypte, entre autres. Ce sont des exemples. Mais qui n'est pas capable de payer son entraîneur pendant 6 mois, si je résume.
Et vous imaginez donc la quatrième nation d'Europe, par exemple, qui a fini, il n'y a pas de place pour la troisième, quatrième place à l'Euro, mais qui termine troisième ou quatrième de l'Euro. La France, par exemple, qui ne paye pas son sélectionneur pendant 6 mois. Mais ça serait une affaire d'État. On arrêterait tout. Et Deschamps, je pense qu'effectivement, quitterait son poste et on irait dans un procès, etc., etc. À un moment donné, peut-être que les instances internationales doivent intervenir. Moi, je ne suis pas pour l'interventionnisme, mais dans ce genre de cas, à un moment donné, si la fédération qui s'est engagée sur un contrat n'est pas capable de le payer, parce qu'il y a une explication à ça, pourquoi ils n'ont pas payé le salaire, on les sort des tournois, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'ils versent, parce que l'argent, il est quelque part. S'il n'a pas été payé, c'est qu'il est parti ailleurs. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Mais il y a eu des joueurs aussi, souvent, quand ils venaient pour les stages ou les rassemblements avec l'équipe nationale, qui venaient d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Ils avaient parfois des mauvaises surprises comme ça. Donc, ils ne venaient pas pour l'argent, parce qu'eux ont des gros salaires dans leur club. Mais pour un sélectionneur qui est lié par contrat avec sa fédération, c'est encore plus compliqué.
C'est plus compliqué. On rappelle bien que la situation est en train d'être réglée. On a parlé de la polémique, parlons du sportif, parce qu'il y a une liste quand même, 25 joueurs qui ont été sélectionnés. Il y a une question qui se pose. Parmi les sélectionnés, il y a le capitaine de cette sélection de RDC, Chancel Mbemba. Mmh. Le problème de Chancel Mbemba, vous l'avez, il ne joue plus, mais pourtant il est sélectionné. Est-ce que pour vous, ce n'est pas problématique d'avoir un joueur qui sera sûrement titulaire sur ces deux journées des éliminatoires, qui n'a pas de rythme?
La question, c'est de savoir est-ce que la RDC a les moyens de prendre quelqu'un d'autre. Parce que Chancel Mbemba, c'est le capitaine, c'est un défenseur international depuis longtemps. Il a un parcours dans des gros clubs européens, je ne parle pas de Marseille.
Il a
un vrai vécu. Il est, on va dire, mis de côté depuis le début de la préparation, donc ça ne fait pas un an non plus. Je pense qu'un Chancel Mbemba qui s'entraîne à part à Marseille a pour moi plus de rythme et plus de crédibilité qu'un Kakuta qui est parti à l'autre bout du monde, en Iran ou je ne sais pas où. Après, effectivement, il ne faut pas que ça reste comme ça trop longtemps. Il ne faut pas aller à la CAN avec un mec qui n'a pas joué pendant 6 mois, 8 mois, parce que lui, il incarne quelque chose.
Ça va se décanter à la fin du mercato, sa situation.
Oui, comme le salaire,
mais
ça va se décanter.
Mais il n'a pas disputé de compétition. Vous dites qu'il a le rythme, d'accord, mais l'aspect compétitif est important aussi.
Non, mais tu as des joueurs parfois qui démarquent, qui sont au chômage, qui arrivent en sélection nationale, et ça ne se voit même pas forcément qu'en Afrique. Tu peux avoir... C'était problématique qu'au mois d'août, Un joueur n'est pas de compétition alors que tu as repris l'entraînement en juin, mais je préfère que ce soit au mois d'août puis qu'il retrouve un club derrière plutôt qu'arriver au mois de février, janvier, février, dire bah non, en fait, il joue pas depuis 6 mois, là c'est un problème. Mais le problème de la RDC, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que entre le championnat local qui ne fournit plus des joueurs comme il en a fourni à une époque, entre des cadres un peu comme ça qui reviennent mais qui sont dans des clubs un peu obscurs, des championnats pétés, tu vois, on parlait Kakuta en Iran, enfin, je veux dire, c'est comment, enfin, à un moment donné, tu peux pas. Tu vas chercher des jeunes, des binationaux qui ont déjà joué dans d'autres pays en jeune, donc ça pose des problèmes de papier.
Ah,
tu vas récupérer des mecs. L'effectif de la RDC, c'est toujours un patchwork incroyable. Et je me dis que là-dedans, à Mbemba, même sans club, même sans rythme, il incarne une espèce de stabilité qui, à l'heure où on se parle, je dis bien à l'heure où on se parle, me rassure.
Non.
Oui, moi aussi.
Messieurs Chancel, Mbemba, Bruno, avant que Shérif réponde,
mais moi, je trouve
il n'a pas de rythme quand même. Moi, je reviens sur ça.
Il n'a pas de rythme, mais parfois, et on l'a vu par exemple avec l'équipe de France, quand Didier Deschamps a continué d'appeler des joueurs qui jouaient très peu en club, c'est aussi une manière de les soutenir, de leur dire c'est normal que la fédération soit aussi là pour son. La sélection soit là plutôt que la fédération. La sélection soit là pour son capitaine et le soutenir et l'aider à retrouver du rythme, et puis aussi parce qu'ils en ont besoin évidemment, mais de les soutenir d'abord. C'est aussi bien de voir ça.
Et aussi ce côté accompagner son joueur. Ouais, c'est le capitaine, c'est un cadre.
Ça serait on l'a vu avec Deschamps avec l'équipe de France. On l'a vu Deschamps avec l'équipe de France. Quand parfois Giroud, il jouait très très peu.
Ouais.
Il maintenait sa confiance. Ça me paraît logique, si une équipe de France est capable de le faire, que la RDC puisse le faire avec leur capitaine en plus. Ce qui n'est pas rien.
Shérif, de là à le voir titulaire dans 2 semaines.
Si, moi je le vois titulaire, ouais, bien sûr. Oui, non, mais c'est, pour moi la question ne se pose pas. C'est un des cadres, c'est le capitaine. Et puis je prenais l'exemple de Maguire. Et en plus, Maguire, bon, il jouait quasiment pas en club. Quand il arrivait à une équipe d'Angleterre, il était très correct. Est revenu. Et Mbemba, pour tout ce qu'il représente, pour
après,
tout ce qu'il
a, Maguire, il n'était pas dans le loft.
Après, c'est ça. La situation de loft, comme on dit.
Non, mais là,
le loft, pour expliquer, c'est on place un joueur en fait à l'écart du groupe. Il ne s'entraîne plus avec le groupe professionnel. Il s'entraîne de son côté ou avec les jeunes. Il ne dispute plus de matchs officiels.
Il perd un petit peu en.
Là, on parle pas d'une compétition à venir. On parle de 2 matchs. Certes, c'est les matchs importants, évidemment. Mais bon, ces 2 matchs.
On peut penser
qu'il va tenir deux fois 90 minutes.
Guinée-Éthiopie, alors, sans vouloir dévaloriser qui que ce soit, je pense que si la RDC tient son rang, elle peut prendre l'ascendant assez facilement sur l'Éthiopie. Donc l'idée, ça serait peut-être de le faire jouer une mi-temps sur l'Éthiopie, le faire souffler, essayer de le garder le plus frais possible face à la Guinée, parce que la vraie opposition pour la RDC,
alors, il démarre par la Guinée.
C'est la Guinée en premier. Ce que je dis n'a pas de sens.
Donc il démarrerait contre la Guinée et on le ferait peut-être plus souffler.
Tu le fais jouer contre la Guinée, puis après tu peux peut-être le faire souffler sur l'Éthiopie.
Parce que c'est, on parle de ça, mais le risque aussi de le faire jouer sur ces 2 matchs, c'est s'il se blesse, c'est qu'il n'a pas le rythme.
Non, mais
le nouveau club qu'il aura acquis d'ici là.
Non, ça veut dire que si tu le prends pas maintenant, tu le prends pas en octobre ou en novembre, tu le prends pas, donc tu le prends pas à la CAN. C'est ça. L'idée, est-ce que la RDC a les moyens de se passer de Chancel Mbemba?
Il va trouver un club d'ici le vendredi.
Oui, déjà.
Peut-être que le club va avoir peur de se dire il va jouer les deux fois 90 minutes, il n'a pas de rythme, il peut se blesser. Pour nous, c'est un mauvais investissement.
Ouais, non, on va aussi préciser que les lofters continuent de s'entraîner personnellement.
Non, puis ça doit avoir quand même des garanties de la part de Mbemba qui se tient, il doit s'entraîner avec un. Il doit avoir, en plus de ce qu'il fait au club avec les jeunes ou avec la réserve, il doit avoir un mec qui s'occupe de lui, un préparateur perso.
Non, mais c'est évident.
Je suis pas inquiet à l'heure où on se parle. Hein. Je précise bien.
Bien sûr.
Le 27 août, 26 août, à l'heure où on se parle, je suis pas inquiet.
Bon, c'est vrai qu'il y a il y a quand même cette limite du mercato. On imagine bien que Chancel Mbemba va retrouver un.
Mais après,
un club.
Le risque, c'est où il essaye de trouver un club qui correspond à son niveau, à ses objectifs, puis ça peut être dur parce que ces clubs-là, généralement, ils ont déjà recruté. Ou alors, il va faire une Kakuta, il va aller en Iran, il va aller au Koweït, il va aller. Dans les îles, je sais pas quoi, et en disant j'ai un club.
Compétitif quand même.
Oui, évidemment qu'il est compétitif.
Parce qu'il y a beaucoup de clubs, même en France, qui seraient intéressés.
Après, attention, Mbemba, c'est quand même un salaire, mine de rien.
C'est toujours
c'est toujours le souci. Mais bon,
la même question.
Moi, tu vois, j'ai regardé PSG Montpellier la semaine dernière. Je me dis, Mbemba dans la défense de Montpellier, même sans rythme, il peut jouer.
Même dans
l'argent, c'est le salaire.
Et je vous le dis en tant que supporter d'une équipe du nord de la France, même dans le top 5 français, il aurait toute sa place. Messieurs, c'est l'heure de se dire au revoir. C'est passé tellement vite. Comme d'habitude, merci Naïm, merci Bruno, merci Shérif d'avoir, comme d'habitude, débattu vaillamment tout au long de cette émission. On salue David Finzel, Pierre Guérin à la préparation, Mathieu De Gueldre évidemment à la réalisation de ces belles virgules sonores. On se retrouve demain, même heure, même radio. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.